Décryptage, Marie Cazadebé.
Fin août, dans le sud-ouest de la Birmanie, des hommes armés attaquaient une vingtaine de postes frontières. Certains se revendiquaient de l'ARSA, un groupe de défense des musulmans Rohingyas. La réponse de l'armée est extrêmement violente. Selon les témoins, elle mène des opérations de représailles. D'après le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, depuis, un demi-million de personnes ont fui l'État Rakhine et rejoint le Bangladesh. Comme ce père de famille, les militaires lui ont laissé 2 heures pour rassembler ses affaires et partir avant de mettre le feu à son village.
J'entends encore le bruit des balles qui sifflent. Nous avons passé 13 jours dans la jungle, à marcher le jour, à nous cacher la nuit. Nous mangions des feuilles et des fruits, nous avons suivi les traces de pas des gens avant nous, et puis nous sommes montés sur un bateau. Mais même là, l'armée tirait sur nous. 2 personnes sont mortes sur le bateau.
Cet homme et sa famille ont eu la chance d'être recueillis par un fermier au Bangladesh, mais la plupart des Rohingyas en exil s'entassent dans des camps surpeuplés. Quelles sont leurs conditions de vie? Quelle aide reçoivent-ils? Comment imaginer leur avenir? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Un décryptage en forme de témoignage ce soir, celui de Françoise Simignon, présidente de Médecins du Monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous revenez d'un voyage au Bangladesh où vous avez rencontré des réfugiés Rohingyas. Alors avant d'entrer dans les détails de la situation que vous avez découverte sur place, vous qui avez l'habitude des crises humanitaires, qu'est-ce qui vous marque le plus dans la situation des Rohingyas en ce moment au Bangladesh ?
Je crois que ce qui est le plus marquant, c'est de voir cette population nombreuse, très nombreuse. Hein, on parle de sur le terrain, dans la région dite de Cox's Bazar, qui est au sud du Bangladesh, 600 000, 800 000 personnes. C'est un afflux de population considérable, en un temps somme toute limité, parce que vous avez mentionné effectivement que ce déplacement massif s'est effectué fin août. Donc en quelques semaines, sont arrivées de ces milliers de personnes sur le sol du Bangladesh. On est face à une crise humanitaire majeure, la plus grande crise humanitaire telle que le mentionnent les Nations Unies, d'aujourd'hui, hein, la plus grande crise humanitaire. Il y a d'autres grandes crises, mais celle-là est vraiment la plus importante, et face à ce qui s'appelle une épuration ethnique.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il existait déjà des camps de réfugiés au Bangladesh, avant même la crise qui a éclaté au mois d'août.
Oui, absolument. Les Rohingyas sont un peuple qui est persécuté depuis des dizaines d'années, et ils se sont déjà réfugiés dans le passé sur le sol du Bangladesh, notamment une période particulière entre 91 et 94, et un des partenaires que nous soutenons sur le terrain, des partenaires donc une ONG du Bangladesh, a mis en place des mécanismes équivalents maintenant pour recevoir ces nouveaux arrivants. Mais effectivement, la crise n'est pas récente.
Alors ça veut dire que ces nouveaux arrivants, l'ONU parle de 500 000 personnes, s'ajoutent à ceux qui étaient déjà sur place. On peut imaginer que ça perturbe totalement aussi la vie de ceux qui étaient déjà dans des camps de réfugiés depuis de longues années.
Oui, la vie de ceux qui vivaient dans des camps, qui étaient réfugiés aussi auprès des populations hôtes, hein, on les appelle populations, donc les citoyens du Bangladesh qui les accueillent comme ils peuvent, on va dire. On est quand même dans un pays, le Bangladesh, qui est pas les plus riches au monde, donc un pays qui fait face aussi à pour une grande partie de sa population, à une grande précarité, une grande pauvreté. Donc le contexte est, dans ce cas-là, très particulier.
On parle de 2000 nouveaux réfugiés par jour. Est-ce que vous, en étant sur place, vous avez vraiment observé ça, une arrivée massive, quotidienne?
Il y a des arrivées massives, et pour information, lundi dernier, il y a eu 11 000 arrivées. Donc là, il y a eu donc un dénombrement assez précis, 11 000 arrivées. Donc les personnes continuent à arriver, ou par voie terrestre, il y a une frontière terrestre, ou par voie fluviale, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Naf, qui est traversé avec les moyens dont ils disposent par tous les jours des centaines, voire des milliers de Rohingyas qui fuient les exactions, qui fuient la misère et la faim, puisqu'en fait, l'accès à la nourriture est, côté birman, très complexe.
On reviendra au côté birman un peu plus tard. En tout cas, le passage, vous l'avez dit, par le fleuve est aussi très dangereux. Encore 10 morts aujourd'hui dans une tentative de passage. Comment se déroule leur accueil? Quand vous dites qu'il y a 11 000 personnes qui arrivent comme ça du jour au lendemain, est-ce que vraiment on les voit arriver avec leurs affaires? Quelle image vous pouvez nous décrire?
On les voit arriver avec leurs affaires, on les voit arriver dans un état d'épuisement intense, en fait. C'est des gens qui sont d'abord, qui ont vu des horreurs, qui ont vécu l'enfer, qui se retrouvent démunis de tout, malnutris aussi, en particulier les enfants, hein. Il y a des cas de malnutrition. L'UNICEF dit qu'il y a environ un enfant sur cinq qui est dans un état de malnutrition sévère. Hein, donc ce voyage très long, exténuant, après avoir vécu l'horreur, et un accueil qui se fait selon les possibilités du terrain, selon les possibilités des organismes sur place, je pense aux agences onusiennes et aux ONG. Encore une fois, je voudrais saluer le travail des ONG locales qui font leur possible. Alors, ils ont toujours ces possibilités, ces capacités d'intervenir plus facilement que nous, parce qu'il y a quelques complexités administratives pour intervenir auprès des nouveaux arrivants, qui s'installent sur des terrains compliqués. Hein, on est en sortie de mousson quelque part, et pendant notre séjour, il a plu une journée complète, par exemple, et ça crée un environnement difficile. Les gens s'installent sous des tentes, ce qu'on appelle des makeshifts en anglais, donc ils font eux-mêmes leur abri avec quatre piliers en bambou, un toit sous forme d'une bâche de plastique, et ils vivent.
On leur fournit ce matériel de base.
Oui, il y a une certaine fourniture, mais ça reste des conditions extraordinairement précaires.
Est-ce qu'il y a assez de place quand on parle de 11 000 personnes qui arrivaient, 2 000 en moyenne par jour?
Il y a des gens partout, il y a des personnes partout, absolument partout. L'État du Bangladesh essaye d'organiser malgré tout, donc il y a un camp officiel qui est géré par le UNHCR, hein, le Haut Comité des Réfugiés pour les Nations Unies. D'autres camps qui s'organisent, beaucoup de camps informels, hein, et c'est vers nous en particulier, Médecins du Monde et nos partenaires, on va plus vers les personnes qui sont encore plus précarisées, je dirais encore moins à même de rejoindre les camps officiels, pour leur donner un soutien en termes d'accès aux soins, notamment. Il faut vraiment pointer le fait que ceux qui arrivent ont un état donc avancé de difficultés par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais aussi ils ont besoin de protection. On a 80% de femmes et d'enfants, donc même dans ces camps, dans cette situation-là, ils ont besoin d'être protégés.
Comment on explique qu'il y ait autant de femmes et d'enfants? Ils racontent quoi? Que les hommes sont restés là-bas pour protéger les biens?
Je pense qu'ils racontent tous que les hommes ont été tués. Hein, il y a eu les exactions ont commencé par un assassinat des hommes en particulier, mais bien au-delà. Après, moi, j'ai pas d'explication. Je n'étais pas sur le terrain, donc faut rester prudent par rapport à une interprétation. Le fait est que sur le terrain au Bangladesh, il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Ça, c'est certain.
Ça veut dire des soins particuliers?
Alors, ça veut dire des soins particuliers. Les femmes ont vécu aussi des traumatismes, des viols et des et pour certaines des délabrements, on va dire ça comme ça, physiques. Les soins particuliers, ça signifie que leur état physique doit être répondu en termes d'accès aux soins et de besoins sanitaires de base, mais aussi en termes de santé mentale. Ils sont vraiment traumatisés. On a rencontré beaucoup de personnes qui sont en état de prostration, des femmes et même des enfants, et ça, c'est compliqué parce que la réponse est compliquée à mettre en œuvre. Il faut de la confidentialité, il faut du temps. Donc, avec des personnes qui elles-mêmes sont incitées à bouger, il est question que... ils essayent de retrouver une partie de leur famille ou de leur village pour certains, donc c'est compliqué aussi de retrouver un semblant de ce côté
de noyau
qu'ils cherchent à retrouver. Et ensuite, le gouvernement du Bangladesh a l'intention de les regrouper dans un camp unique.
Alors voilà. C'est ce que un ministre du Bangladesh a annoncé il y a une dizaine de jours, faire de ces deux grands camps un seul même camp. On parle de près d'un million de personnes. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce que ça facilite la gestion de toute cette population?
Alors, dans l'immédiat, il faut organiser les distributions de nourriture, il faut que les gens soient organisés en secteurs quelque part, et ça commence à se faire. Donc je dirais que logistiquement parlant, ça peut avoir du sens d'organiser pour que les gens aient au plus vite accès aux soins, accès à la nourriture et qu'on puisse répondre à leurs besoins essentiels. Le gouvernement commence à construire des routes, tout ça, ça compte. La logistique est très très compliquée. Acheminer des médicaments et des vivres, c'est compliqué. Après, la vie, le futur, ça se situera pas pour eux. On a du mal à considérer que vivre dans un camp, c'est un futur durable.
Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de notre envoyé spécial au Bangladesh, Sébastien Farsi. Donc, il s'est rendu dans un camp, c'était début septembre, le jour d'une distribution de riz.
J'attends depuis 4 heures, j'ai faim. Mon mari est mort et je ne sais pas où est ma carte de rationnement. Je ne veux pas mourir ici.
C'est le premier jour de distribution et il se fera en 10 fois, mais tout le monde est venu en même temps et c'est donc très difficile à gérer. Ça fait plus de 3 ans que je travaille dans ces camps et je n'ai jamais vu un tel afflux. C'est incroyable.
On sent toute la tension dans ce camp, donc jour de distribution du riz. Comment décririez-vous l'atmosphère quotidienne sur ces sites ?
En fait, ce qu'on a vu, c'est effectivement les distributions de nourriture sont des moments compliqués pour pour ceux qui veulent accéder à la nourriture, parce que tout le monde essaye de retrouver le plus vite possible de quoi nourrir sa famille. Les gens marche tout le temps. Enfin, moi, ça m'a frappé. Je vois des gens bouger tout le temps parce que ils essayent les uns les autres de retrouver des gens avec qui ils étaient, des villages, des gens avec qui ils avaient une proximité. Pour comme dans tous les camps, on essaye le plus vite possible de retrouver un noyau de quelque chose. Après avoir survécu, ils ont besoin de retrouver ces noyaux de vie. Ça, c'est absolument indispensable. C'est le quotidien, chercher de la nourriture, chercher des proches, essayer d'identifier, par exemple, les lieux de soins pour Médecins du Monde et ses partenaires. C'est vrai que on propose un certain nombre de services et du coup, je pense que pour ces personnes, certaines sont blessées, donc clairement, ils ont besoin de soins urgents. J'entends des blessures à la machette ou autre instrument. Identifier les endroits où leur vie quotidienne pourrait être améliorée. Je pense que ça, c'est évidemment un objectif quotidien.
Alors la question, vous parliez d'organisations locales, il y a aussi des ONG internationales. Est-ce qu'il y a suffisamment d'aide pour cet afflux immense? On parle par exemple de nourriture, est-ce que ces 900 000 personnes arrivent à manger chaque jour?
Alors, au moment où j'y étais, c'est-à-dire il y a une semaine maintenant, les besoins n'étaient pas complètement répondus, encore une fois, et il y a des gens qui arrivent tous les jours. Et puis, tout ça est adossé à des autorisations du gouvernement du Bangladesh de nous laisser intervenir, ce qui est normal, et en même temps, on pointe tous, ceux qui sont sur le terrain, l'urgence en termes de répondre à ces besoins essentiels de ces populations.
L'attitude justement du Bangladesh, c'est plutôt de vous laisser la liberté vraiment de travailler. Est-ce que c'est compliqué?
C'est une liberté que je qualifierais de contrôlée. Nous, on est en train de... On travaille, mais on a besoin d'un enregistrement officiel, donc on y travaille activement. Ça devrait se advenir dans les jours qui viennent. Ça ne nous empêche pas de travailler, encore une fois. Je pense qu'ils ont besoin de garder un certain contrôle sur qui vient, ce qu'on fait, ce qu'on fournit. Et puis, il y a un problème comme urgent de coordination aussi, dont ils en sont bien conscients. Donc, dans tous ces camps, la coordination est absolument essentielle. Qu'on ne soit pas tous au même endroit à délivrer les soins et qu'ailleurs, il n'y ait pas d'accès aux soins, par exemple. Donc, la coordination est absolument essentielle.
En quelques mots, quelles sont les ONG présentes dans ces camps?
Alors, il y a les agences onusiennes, bien évidemment, qui ne sont pas des ONG, mais les agences de l'ONU, le Haut Comité aux réfugiés, l'UNICEF, l'OMS. Bon, ces gens-là sont présents, évidemment, dans les camps, les agences onusiennes. Il y a des grosses ONG internationales comme sont MSF, MDM, on est plus petit, mais on est présent. Action contre la faim, handicap international, en ce qui concerne les ONG françaises. Il y a des ONG... internationales, il y a aussi des ONG confessionnelles qui sont présentes sur le terrain, et puis des Croissants Rouges, le Croissant Rouge turc par exemple est présent sur le terrain.
La suite de notre décryptage sur la situation des Rohingyas réfugiés au Bangladesh avec François Sivignon, présidente de Médecins du Monde, de retour du Bangladesh, et Yelena Tomic du service Asie de RFI. Bonsoir Yelena.
Bonsoir.
Alors on a pris le temps de décrire la situation dans le sud-est du Bangladesh. Que peut-on dire maintenant de la situation de l'autre côté de la frontière, donc dans l'état de l'Arakan?
Bah écoutez, c'est très difficile à dire puisque le nord de l'état de l'Arakan, d'où on fuit, vous l'avez dit tout à l'heure, plus d'un demi-million de Rohingyas est entièrement bouclé par l'armée depuis l'attaque du 25 août. Et la riposte qui s'en est suivie, il y a des opérations militaires en cours. En tout cas, officiellement, elles ont baissé d'intensité. Il n'y en a plus d'après l'armée. Donc, aucune organisation humanitaire ni ONG n'a accès à cette zone depuis un mois et demi. Donc, les seules informations dont on dispose proviennent des témoignages recueillis au Bangladesh auprès des réfugiés. Il y a aussi des images satellites qui sont diffusées par le Human Rights Watch. Et puis, il y a certaines certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont vraiment traumatisantes à voir, parce qu'on voit voilà des corps, des cadavres, voilà des villages qui brûlent au loin. Donc voilà. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'apparemment les combats ont baissé en intensité, mais on l'a vu, tous les jours il y a des nouveaux, des milliers et des milliers de personnes qui continuent à fuir le nord de l'État de l'Arakan. Ces dernières 24 heures, là, les nouveaux chiffres de l'OIM, c'est 12 000 réfugiés qui ont encore donc franchi la frontière. Alors, ils fuient les intimidations, les exactions, mais aussi la faim, parce qu'il n'y a rien à manger de l'autre côté de la frontière. C'est pareil. Certaines ONG racontent que on n'a pas seulement détruit les villages, d'après ces images satellites qu'on a vues, mais les cultures aussi. Il n'y a plus rien à manger. Du coup, de nombreux villageois très pauvres sont poussés à l'exil.
Alors, combien de temps cette crise va-t-elle encore durer? Ça, c'est forcément la grande question. Et surtout, quand est-ce que les réfugiés vont pouvoir rentrer chez eux?
Bah ça, c'est une grande question. Ça fait plusieurs semaines déjà que la communauté internationale fait pression sur les autorités birmanes pour cesser les violences, permettre le retour des réfugiés. Mais compte tenu du nombre énorme de réfugiés et de la situation dans l'Arakan, cela va être très compliqué. L'Union européenne a demandé vendredi dernier à Rangoon de créer des conditions pour un retour digne, en sécurité et sur la base du volontariat. C'est un mot très important parce que compte tenu de la situation où ils ont fui des exactions, voilà, on va pas les forcer à rentrer chez eux. Et puis encore faudrait-il qu'ils puissent rentrer chez eux puisqu'ils n'ont plus de chez eux.
Aung San Suu Kyi s'est engagée dans son discours du 12 octobre à organiser le rapatriement de tous les réfugiés qui ont fui le pays depuis octobre dernier. On l'écoute.
Il y a trois tâches principales. Rapatrier les personnes qui ont fui au Bangladesh et leur fournir une aide humanitaire efficace, les relocaliser, enfin apporter à la région le développement et établir une paix durable.
Yelena Tomic, qu'est-ce que l'on sait alors de ce plan de rapatriement? Cela répondra d'ailleurs à la question d'un de nos auditeurs sur Facebook.
Alors c'est un processus qui va se faire sur la base d'un accord signé en 1992 entre les autorités birmanes et bangladaises. À l'époque, les deux pays avaient convenu de critères de retour des réfugiés Rohingyas qui avaient fui une précédente vague de répression. Environ 230 000 réfugiés avaient été rapatriés en plusieurs vagues entre 1992 et 2005. Ça a pris 13 ans. Donc on imagine que dans ce cas, ça va peut-être prendre autant d'années sinon plus. Et puis il y a le problème de ces critères, puisque l'accord de 92 prévoit l'acceptation de tous les réfugiés en mesure de prouver leur identité ou de montrer un titre de propriété. Or la grande majorité n'ont ni carte d'identité ni titre de propriété. Voilà, donc il y a plusieurs, au-delà de ces questions fondamentales, il faut créer des conditions pour un retour, donc cesser les hostilités, permettre l'accès à la zone aux organisations et agences humanitaires et reconstruire les villages pour pouvoir relocaliser tous ces réfugiés.
François Sivignon, est-ce que les réfugiés que vous avez rencontrés parlent de revenir en Birmanie, rentrer au pays?
Ah non, enfin, ce qu'on a été interrogé en l'état, il n'en est même pas question. Ils essayent, d'essayer de reconstruire quelque chose là, peut-être de façon temporaire, j'ai pas la solution de ça. Un retour, mais sous quelles conditions? Enfin, je veux dire, il faut que ces gens soient protégés, qu'ils aient accès à tous leurs droits, qu'ils aient une nationalité. Je veux dire, ils sont apatrides, donc toutes ces conditions sont pas réunies pour l'instant. Et on voit mal, en l'état, encore une fois, en dehors d'une protection assurée, encore une fois, un accès aux droits pour toute cette population, ce qu'elle n'a jamais eu. Donc,
Et précision qu'il n'y a aucune ONG, alors, en ce moment, dans l'Arakan, dans le sud-ouest de la Birmanie.
Ceux qui étaient présents ont tous été expulsés, hein, pas de Birmanie, mais en tout cas de l'état de l'Arakan. Voilà, donc on est comme les autres, on demande de nouveau qu'il y ait un accès humanitaire, hein, à ces populations, une protection, mais encore une fois, les conditions en l'instant ne sont pas réunies, ou ça prendra du temps, et puis il faut vraiment que cette population qui a été stigmatisée depuis si longtemps, elle ait des droits qui soient équivalents aux autres.
Alors il est difficile d'envisager aussi une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU en raison du soutien de la Chine et de l'Inde. Comment percevez-vous, l'attitude de la communauté internationale sur la situation des Rohingyas?
Bah écoutez, c'est frileux, mais frileux, le terme est pas bon, je veux dire, c'est indigne. Enfin, il y a un moment où Parlons du Conseil national de sécurité de l'ONU. La France siège, donc j'espère que suite à la déclaration de M. Macron qui a qualifié ces exactions et cette épuration ethnique de génocide, alors ça a été qualifié que par lui, il va falloir aller bien au-delà et prendre de vraies décisions et passer à l'action.
Merci beaucoup François Sivignon pour votre témoignage. Présidente de Médecins du Monde, merci à Claude Battista, Léonore Krenik, Emmanuel Sevin et Françoise Delignon qui m'ont aidé à préparer cette émission. À retrouver sur RFI.fr.